Est-ce que tu rêves de vivre dans un écolieu ? Aujourd'hui, on parle de ce nouveau fantasme des Français avec Mathieu, qui a accompagné plus de 100 écolieux. Bienvenue dans Soif de sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens à toi. Et aujourd'hui, on accueille Mathieu Labonne de la coopérative Oasis pour parler d'écolieux et de comment vivre ensemble autrement. Salut Mathieu.
Salut Pierre, bonjour à tous.
Alors je te présente en 10 secondes. Au départ, tu es chercheur sur le climat au CNRS. Ensuite, tu as succédé à Cyril Dion comme directeur du mouvement Colibri, cofondé par Pierre Rabhi. Et aujourd'hui, tu diriges la coopérative Oasis qui accompagne celles et ceux qui vivent ou qui veulent vivre dans des écolieux collectifs. Et en plus, comme tu fais pas assez de choses en parallèle, tu as cofondé ton propre écolieu, l'éco-hameau du Plessis, où tu vis avec ta femme et vos trois enfants. Pour commencer, écolieu ou oasis, c'est des mots fourre-tout qui regroupent beaucoup de diversité. On en recense plus de 1000 en France, je crois. Et ça peut être autant, pour vous donner une idée, des habitats participatifs, des tiers-lieux avec ou sans logement. Il peut y avoir une activité agricole, artisanale, des événements ou pas du tout. Ça peut être à la ville ou à la campagne. Et donc, tu peux y partager soit une salle commune, un potager, des compétences, des activités, etc. Pour moi, de ce que j'ai compris, le point commun, c'est d'être un lieu collectif qui remet la relation humaine au centre et qui, en plus, permet d'explorer une autre manière de faire société ensemble. Pour toi, Mathieu, c'est quoi un écolieu ou une oasis ?
Alors, je vais parler plutôt d'oasis, parce que, on peut dire qu'une oasis, c'est un écolieu collectif, comme tu viens de le dire.
C'est-à-dire d'accord, que, c'est ça la différence entre les deux, je vous demandais.
Ouais, le parti pris de ce réseau oasis, c'est de rassembler des lieux très différents. Donc, il y a vraiment une grande diversité d'origine dans ces lieux et de formes, mais avec peut-être en point commun le fait de mettre, comme tu le disais, au cœur le travail du collectif, le travail du faire ensemble, du vivre ensemble, comme étant un levier pour accéder à un mode de vie plus écologique. Donc, le point de départ, c'est de dire que si on construit un mode de vie et un monde plus écologique, du coup, il faut réapprendre à faire ensemble. C'est-à-dire qu'on parle d'écolieux collectifs, et c'est beaucoup, peut-être plus en avant la dimension collective, dans ce que traversent les personnes, et que c'est un levier pour accéder finalement à plus d'autonomie, plus de sobriété, plus de lien social aussi.
Ok. Ouais, justement, je me demande. Il y a plein de raisons possibles. Pourquoi les gens veulent habiter dans un écolieu ? Moi, je me demandais, est-ce que c'est... Il y a forcément toutes ces raisons, mais parmi celles que je vais citer, lesquelles sont peut-être les plus fréquentes selon toi ? Est-ce que c'est plus la solitude ? Parce que aujourd'hui, on a moins d'enfants, plus tard, il y a plus de divorces. La ville, c'est hyper anonyme. Et quand tu vieillis, t'es plus isolé. Est-ce que c'est plus le côté écolo, justement ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que c'est plus la quête d'autonomie ou de sobriété, par exemple ?
C'est dur de répondre parce que ça dépend des gens. En fait, il y a beaucoup de réponses sur ce réseau qui vont dire que ça dépend. En fait, globalement, il y a quand même deux motivations principales. C'est de participer plus largement à un monde plus écologique et solidaire. Donc, il y a souvent une démarche quand même assez militante, de faire sa part et d'incarner dans son mode de vie ses valeurs. Et après, il y a des attentes peut-être plus personnelles, plus individuelles, qui est une quête de sens et une quête de bonheur. Par exemple, tu parlais des enfants. Quand on a des enfants, c'est vrai que de se donner un lieu de vie sécurisant, convivial, avec d'autres parents, avec qui partager des choses, ça peut répondre aussi à des besoins très personnels. Donc, à la fois un épanouissement personnel qui est cherché dans ces lieux, et à la fois une contribution à quelque chose de plus large.
Ok. Votre mission avec la coopérative Oasis, c'est notamment de soutenir la création de ces écolieux. Par exemple, moi j'adore sur votre site, il y a une carte avec toutes les oasis près de chez toi. Et du coup, j'ai vu qu'il y en avait juste à côté de chez moi, donc j'ai trop envie d'y aller maintenant. Mais aussi de leur proposer plein d'outils pour construire son projet. Donc ça peut être les trucs plus techniques, potentiellement un peu plus chiants, comme le financement, le juridique, etc. Mais aussi, tu en parles aussi, l'importance de l'humain, comment gérer un groupe, les conflits, comment est-ce qu'on prend des décisions ensemble, etc. Selon toi, c'est quoi les principaux peut-être fantasmes des gens qui rêvent de rejoindre une oasis ?
Alors déjà, je pense que le fantasme numéro un, c'est de s'imaginer que ça va être un paradis. Ça va être un lieu où tout va être parfait comme on a envie. Ouais. Et du coup, il y a un idéal, et ces oasis incarnent d'une certaine façon un certain idéal de beauté, d'écologie, etc. Mais pour accéder à ça, il faut se confronter à la dimension humaine, et où là, bah, c'est des gens comme partout ailleurs qui peuvent avoir besoin de travailler sur eux-mêmes, qui peuvent avoir des émotions difficiles, des conflits, des tensions. Donc c'est une OI, ça peut être à la fois un paradis si tout va bien, mais ça peut être aussi un enfer à l'inverse si on s'entend pas, parce que du coup la proximité avec d'autres personnes donne l'occasion de vivre plus intensément les relations humaines, en bien ou en mal. Donc le principal, je pense, rêve que les gens ont, c'est d'imaginer que ça va correspondre exactement à ce qu'ils veulent eux, et d'oublier que finalement c'est un projet collectif. Donc ça demande aussi de renoncer parfois à ses attentes ou à ses rêves personnels pour aller vers quelque chose de plus collectif et de plus commun. Donc c'est là où, par rapport à des lieux où des gens se seraient pas choisis, c'est des gens qui se sont choisis, des communautés qu'on dit intentionnelles, des gens qui ont fait le choix de vivre ensemble. Donc s'ils font correctement le travail de poser les bonnes questions, de s'assurer qu'ils ont vraiment les mêmes valeurs et les mêmes envies, c'est vrai que ça aide derrière. Mais il n'empêche que la vie fera que les gens vont évoluer, qu'il y aura des divergences de points de vue, c'est sain aussi, hein, évidemment, qu'il puisse y avoir des désaccords, des débats dans les collectifs. Voilà. En tout cas, ça demande, en fait, de se confronter à la relation. Et ça, je trouve ça immensément riche. Donc, quelqu'un qui veut vraiment approfondir les relations humaines, bah, du coup, il y a une matière énorme. Quelqu'un qui veut juste se créer un lieu pépère pour se retrouver tranquille, avec autonome, une vie géniale et pas de problème, du coup, il va sans doute déchanter rapidement. Voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment ça que je pense que la motivation ne doit pas être le fait de se créer un paradis coupé du monde, mais plutôt de se dire, je vais vivre une vie intense. Où au niveau humain, ou au niveau de ma relation, alors que ce soit moi-même, à l'autre ou à la nature, je vais pouvoir approfondir plein de choses. Voilà. Si c'est une quête intérieure de cet ordre-là, bah, du coup, la vie en oasis, elle est immensément riche.
Ouais, effectivement. Il y en a beaucoup qui peuvent confondre leur projet avec le projet collectif de l'oasis. Effectivement, si tu as plus envie d'être tranquille à la campagne, plus en autonomie, tu n'as pas forcément besoin de cette dimension collective et du coup du travail humain qui va avec et des conflits qui peuvent surgir. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de je ne sais pas, peut-être en ce moment, des projets que tu accompagnes? Pourquoi est-ce qu'ils t'ont... Avec quelle problématique qui est très concrète ils viennent te voir, par exemple?
Alors, il y a vraiment de tout. Il y a en gros des typologies de lieux assez différents dans le réseau. Il y a des lieux typiquement type éco-hameaux comme nous, plutôt des maisons individuelles avec des espaces communs. Il y a beaucoup de lieux qui sont plutôt des propriétés collectives ou qui a des collectifs qui rénovent des patrimoines, par exemple qui achètent un petit manoir, un château, une grande ferme.
Ouais, il y en a qui achètent des châteaux, c'est trop bien.
Et qui habitent à 4, 5, 8, 12 familles dedans. Et qu'on a qui montrent des propriétés collectives type coopératives d'habitants, etc. Il y a des formats aussi qui sont assez nouveaux, beaucoup de lieux assez militants qui sont portés par des jeunes, des trentenaires par exemple, qui après avoir vécu en coloc décident d'acheter un lieu et de vivre ensemble. Ça c'est des projets qui se développent beaucoup. Il y a aussi des écolieux qui sont portés souvent par un couple un peu charismatique, fondateur, et puis pas mal de gens qui gravitent autour. Enfin, donc il y a des typologies différentes, qui ont des besoins différents. Mais ce qu'on voit, et c'est là-dessus qu'on accompagne, c'est qu'il y a finalement deux leviers fondamentaux pour qu'un projet réussisse. C'est en gros une bonne gestion et une bonne dynamique humaine. Donc la bonne gestion, donc, c'est en gros du juridique et du financier. Et on sait que quand même sans argent ces projets sont difficiles à réaliser, donc il faut pouvoir mobiliser des réseaux de citoyens partenaires qui peuvent prêter de l'argent, faut pouvoir faire appel à des banques ou à la coopérative Oasis pour avoir du financement. Voilà, donc il y a besoin quand même d'une bonne gestion. Donc en fait, quand on crée un Oasis, c'est qu'on oublie, mais en fait on crée un peu comme une entreprise. Alors, souvent c'est une forme de société que c'est géré.
Oui.
Du coup, il y a des enjeux de gestion d'entreprise. Il faut faire un business plan, il faut travailler des questions juridiques, faire des conventions, des pactes d'associés. Il y a toute une mécanique à mettre en place qui est nécessaire et qui en même temps est assez sécurisante. C'est-à-dire que c'est à la fois c'est vu comme un truc casse-pied, mais c'est ce qui garantit sur le moyen et le long terme quand même une bonne gestion et aussi une bonne entente. Donc ça, on accompagne beaucoup là-dessus, beaucoup les projets à choisir leur montage juridique, à comment traiter telle ou telle question, les enjeux de fiscalité, etc. Okay. Et après, le côté humain, on accompagne aussi beaucoup là-dessus avec plusieurs portes d'entrée. Souvent, les collectifs ont la porte d'entrée de la gouvernance, c'est-à-dire de comment on va prendre des décisions, comment on va se répartir des rôles, etc. Mais il y a aussi toute la question, justement, de un peu plus subtile, un peu plus subjective, du vivre ensemble. Quels vont être les rituels qu'on va se donner? comment est-ce qu'on va créer des relations qui soient saines sur la durée par en fait des processus de réconciliation, des processus de médiation au sein d'un collectif. On va pouvoir aussi utiliser le collectif comme un outil pour travailler sur nous-mêmes. Et voilà, donc c'est tout serait peut-être un peu plus subjectif. On accompagne aussi là-dessus. Donc c'est un peu les deux gros volets de l'accompagnement qu'on fait, c'est d'aider les gens à sécuriser leur projet au niveau juridique et financier, et aussi de sécuriser au niveau humain en mettant en place des conditions pour que le collectif aille bien. En gros, de créer ce qu'on appelle une hygiène relationnelle.
Ouais, parce que c'est quand même une immense coloc, quoi. Et donc, si vous avez déjà été en coloc, ça peut être des petits trucs comme la vaisselle ou quoi qui rendent fou. Et encore plus là, quand t'es adulte, où bah, à la fois souvent les gens ont envie d'avoir un peu leur vie privée. Et je pense que quand il y a du logement, souvent c'est assez privé. Et à la fois, ok, quels espaces on décide de partager ? Est-ce qu'on mange tous les repas ensemble, juste une partie ? Est-ce que comment on se répartit les tâches ? Et en plus tout ça, fois, je sais pas. 5-10 familles.
Avec des grands sujets, le rapport au pouvoir, le rapport à la décision, et un grand sujet, le rapport à l'argent. Et aussi, parce que là, du coup, par rapport à l'écologie, il y a quand même des gens, ils mettent parfois toutes leurs économies dedans. Et il y a des dettes à rembourser. Donc, il y a aussi ce stress-là qu'on vit différemment les uns les autres.
Voilà, oui, parce que tout le monde ne vient pas forcément avec le même apport financier au début, ce qui est trop bien, mais ce qui, du coup, nécessite de... Ok, est-ce que c'est un don ? Est-ce que tu vas me rembourser sur la durée ? Est-ce que, du coup, c'est compensé parce que tu vas... Je sais pas, plus travailler au potager ou enfin.
C'est ça. Et ça, c'est des questions qui se formalisent et qui peuvent se poser dès le départ. Faut pas attendre que les problèmes arrivent. Voilà, c'est posé. La complexité aussi des lieux que nous on accompagne, c'est qu'il y a la dimension habitat dont tu parles, mais aussi souvent une dimension activité économique. Ouais. Donc, les gens non seulement habitent sur place, mais parfois travaillent sur place. Voilà. Et donc, ce qu'on voit d'ailleurs, et nous, c'est un peu le modèle qu'on promeut, c'est que on part d'un projet unique, mais qui finalement devient ce que nous on appelle un archipel. C'est-à-dire un ensemble de plein de sous-projets interconnectés. Dans un même lieu, vous pouvez très bien avoir un habitat collectif et un lieu de tourisme, d'accueil, et une ferme collective ou pas qui fait du maraîchage bio, et une école alternative qui s'installe. Donc, vous avez cette notion d'écosystème qui se met en place, qui remet de la complexité, à la fois remet de la souveraineté individuelle, parce que chacun, du coup, peut aussi s'exprimer par rapport à ses propres projets et pas seulement dans le collectif, mais ça met de la complexité. Et c'est là où les enjeux humains deviennent encore plus importants.
Et est-ce que tu peux nous raconter des anecdotes de l'impact que ça a pu avoir vous, que vous accompagnez des écolieux, qu'est-ce qu'ils vous disent après votre accompagnement ?
Il y a plein de retours. Globalement, déjà souvent, on fait des accompagnements sur la durée. En fait, quand on finance un projet, on accompagne sur la durée. Donc là, sur 10 ans, par exemple. Donc, on a vraiment le temps de devenir presque un membre du projet, un peu extérieur, qui a certaines compétences. Et du coup, ça, les projets sont très reconnaissants parce qu'on apporte plein de petites choses au quotidien. Par exemple, des gens qui disent, est-ce que vous pouvez relire notre PV d'AG qu'on doit envoyer au greffe? Est-ce que vous pouvez nous donner un contact d'un bon notaire pour faire ça? Comment est-ce qu'on peut modifier notre PLU à l'échelle locale pour pouvoir mettre l'habitat léger? Voilà, on a plein de questions. Et donc, ça, on a la chance d'avoir à la coopérative beaucoup de compétences et beaucoup d'expérience, donc on peut répondre un peu à toutes les questions. Donc on est un peu une hotline permanente pour les gens qui ont besoin. Et ça, c'est précieux, parce que des fois, on se retrouve un peu sec sur un sujet et d'avoir quelqu'un à qui parler pour trouver
juste
la solution.
Juste à trop la tête dans le guidon et tu te rends pas compte de la source du problème. Quoi.
Et après, on a beaucoup des projets qui sont en phase d'émergence aussi, des projets qui sont en train de se poser des questions. Et là, on les aide beaucoup à clarifier en fait leurs intentions et leurs valeurs pour faire des choix qui vont être structurants, notamment des choix de modèles juridiques. C'est souvent une question qui est une grosse porte d'entrée quand même des lieux qui viennent nous voir et des collectifs, en disant voilà, on est 10 familles, on voudrait acheter tel lieu, comment on s'y prend, est-ce qu'on fait plutôt une SCIA ou une coopérative d'habitants? Donc c'est des choses assez techniques. Et donc nous, on a une expérience qui est pas, on n'est pas juste des juristes, on est vraiment des gens qui connaissent bien les lieux, donc on a à la fois la compétence technique, mais aussi on a l'expérience de beaucoup d'autres lieux. On va dire, attention, si vous faites ça, il y a tel lieu qui a vécu tel problème, il va faire monter telle solution qu'ils ont mis en place. Après, sur l'aspect humain, on a des super victoires, des moments où des collectifs en crise, ils sortent de cette crise par le haut, avec des relations renouvelées, avec une confiance retrouvée. Ben ça, du coup, c'est super satisfaisant pour nous. Parce qu'on a quand même des collectifs qui sont souvent assez complexes, qui sont de grande taille, avec des enjeux qui sont souvent entremêlés. et où finalement, okay. ces aspects de relation et les aspects de gestion, en fait, ils sont pas si segmentés que ça. Il peut y avoir des tensions relationnelles qui dérivent de tensions financières ou de tensions sur la gouvernance, sur l'organisation. Et du coup, d'arriver à démêler tout ça, ça c'est souvent, voilà, c'est un peu comme quand on résout un problème de maths, quoi. C'est-à-dire qu'on démêle un peu tout, on démêle une pelote et on trouve des solutions. Et surtout, une de nos forces, c'est qu'on est capable de le faire assez vite. Et donc, de pouvoir les accompagner juste en 2 heures, en 3 heures ou en une demi-journée et vraiment de se sentir utile en peu de temps, ça, du coup, je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment développé.
Là, tu parlais de projet où vous êtes sorti par le haut, où il y avait des conflits humains. Est-ce que tu aurais un exemple à nous raconter? Sans forcément citer le nom des
lieux. Ouais, c'est vrai de citer les lieux parce que c'est parfois beaucoup de l'intime. Mais là, par exemple, c'est un projet qui est un espèce de château où il y avait une dizaine de familles. Enfin, je sais pas moi, en l'occurrence, c'est une autre personne qui s'appelle Daphné dans la coopérative qui les accompagnait. Et où, en fait, ils étaient vraiment, ils se parlaient plus du tout. C'était la crise, des gens qui étaient en train de partir un peu à l'appel. Et il fallait du coup, clarifier qui restait, qui partait. Donc en l'occurrence, il y a des gens qui sont partis, peu, mais il y en a quand même qui sont partis. Donc c'était, si jamais il se passait rien, le projet il volait en éclats, avec quand même des tensions, y compris sur les remboursements des gens qui partaient, etc. Et donc ça a permis au projet aujourd'hui de continuer à exister, de continuer à se développer, avec quand même des départs. Il y a eu des départs.
Ouais, on est loin du paradis.
Ouais, là il y a eu un autre exemple d'un lieu aussi où il y a eu les histoires là amoureuses entre 3 personnes dans le collectif et du coup ça finissait par tomber tout le groupe. Et du coup une personne qui suite à un accompagnement le groupe a pu déposer aussi ce qu'il vivait etc. Une personne parmi les 3 qui est partie du collectif. Donc ça peut solder par un départ ce genre de choses mais qui est partie de façon très sereine. Et ça a permis au collectif de continuer de façon de façon plus apaisée. Donc en fait c'est des lieux qui sont très vivants donc la vie fait qu'il y a des arrivées, des départs, des choses positives, des choses négatives. Voilà, mais c'est sûr que évidemment quand on nous contacte nous, c'est plutôt qu'il y a des choses difficiles à gérer, c'est pas quand tout va bien. Il y a des groupes comme ça, il y a des groupes qui viennent vers nous en disant tout va bien, mais on veut quand même être accompagné pour être sûr que tout reste bien. Donc ça c'est des fois on les accompagne.
C'est les premiers de la classe ça. C'est...
Ouais. Mais très souvent c'est plutôt des projets qui nous contactent quand il y a un besoin. Ou tu vois par exemple ça peut être juste on a un contrôle fiscal qui arrive, comment est-ce qu'on se met au niveau, des choses très très pragmatiques que les lieux ont à gérer. C'est pour nous notre posture, c'est vraiment une posture de par petites touches si possible, c'est de pas de prendre la main sur un projet parce qu'on connaît bien les sujets, c'est vraiment d'être là à l'écoute de leurs besoins et de toujours faire en sorte que le projet reste maître de son destin. C'est-à-dire que nous on est vraiment un accompagnateur, on va pas se mettre à la place des personnes qui portent le projet.
Ouais. Avant de lire ton livre « Servir le monde », donc qui sort le 10 mars, félicitations, je ne me rendais pas compte à quel point effectivement la présence d'un oasis, ça infuse énormément sur le territoire, justement sûrement plus justement qu'un écolieu parce que c'est collectif. S'il y a une AMAP, les gens autour ils vont mieux manger. S'il y a des activités ou des fêtes, il y a une vie culturelle. Mais aussi en fait sur la diffusion des idées, parce que t'as un exemple vivant sur place de démocratie participative ou d'agroécologie, etc., qui peuvent inspirer d'autres futurs écolieux ou la mairie ou des entreprises ou la région, etc. Est-ce que toi, tu aurais des exemples d'infusion comme ça d'un écolieu qui a contaminé son environnement?
Il y en a plein. Et en fait, la question qu'on peut poser aujourd'hui, c'est de dire, très bien, vous créez encore une fois un lieu super, écolo, très sobre,
des bonnes relations.
Mais en fait, ça, c'est du fantasme. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que c'est des lieux qui sont ultra intégrés et qui, justement, vont recréer du lien social. Et c'est pour ça moi, je dis beaucoup que c'est des lieux qui sont des catalyseurs de lien social parce que c'est des lieux dans les petites communes ou milieu rural. C'est des lieux qui recréent un espace pour se rencontrer, qui montrent qu'on peut faire autrement. Donc là, pour moi, l'exemple, rien que sur l'échelle de notre propre projet, on a, aider à installer un couple de maraîchers bio, qui du coup fait qu'on, par exemple dans le village aujourd'hui, on des légumes bio, alors qu'on est quand même au fin fond de la Beauce. On a une personne membre de l'Equamo qui a créé un café associatif et un petit restaurant bio et épicerie bio dans le centre du village. Donc en fait, d'un village du fin fond de la Beauce qui était plutôt un peu en retard sur ces questions-là, on devient presque un village un peu en avance, en tout cas par rapport à ce qui se fait autour de nous. Donc et ça, c'est souvent que dans ces lieux, les gens qui sont là ont pas envie de se couper du monde. Ça, c'est une fausse idée de croire que les gens qui créent ce genre de lieux, c'est pour se créer un petit paradis doré. C'est plutôt parce qu'ils veulent vraiment contribuer. Il y a une démarche assez militante. Et du coup, ils vont avoir un impact. Un autre exemple dans notre lieu, c'est que moi, dans ma maison en paille, je l'ai construite partiellement moi-même, au moins sur le second œuvre, et sur le chantier, eh bien, il y a quasiment tout le village qui a débarqué à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que les gens, ils venaient voir, ah, bah, tiens, une maison en paille, à quoi ça ressemble, à des enduits en terre, des murs en briques de terre crue. Et ça sème des graines, je pense, beaucoup plus puissantes que juste, un documentaire à la télé. Oui. Parce que les gens le voient, le touchent, et ils savent que c'est possible pour eux aussi. C'est pas un truc qui se fait ailleurs, un truc qui s'est fait dans la maison d'à côté, quoi.
Ce mec complètement déjanté qui crée sa maison en paille à côté
de chez moi. Et en même temps, je pense que l'expérience rassemble beaucoup plus que la théorie. C'est-à-dire que il y a des personnes qui ont des opinions politiques ou spirituelles très différentes des miennes, mais on va se retrouver d'accord sur le fait de faire de l'apiculture ou sur le fait de cultiver un jardin ou d'avoir des poules. Mmh. Voilà. Et donc, l'expérience concrète, elle rapproche des gens qui peuvent avoir peut-être des motivations à la base légèrement différentes, mais où au final, il y a toujours une envie de bien vivre. Ça, c'est commun à tous les êtres humains. Un autre exemple, là, il y a quelques jours, j'étais à la Bigotière, qui est un projet en Bretagne, où c'est un collectif de 12 personnes, donc c'est tous qui ont entre 50 et 60 ans, qui étaient amis de longue date, et qui ont essayé de créer, c'est 6 couples, ont créé un projet ensemble en rachetant une vieille ferme bretonne et en vivant sur place. Donc on se dit, bah, c'est super, c'est 12 personnes amies, plutôt avec des têtes bien faites, etc., qui s'achètent un lieu et qui font un truc super. Mais ce qu'on voit, c'est que dans leur lieu, ils ont installé une association qui accueille des femmes placées par les sociales à l'enfance avec leurs enfants en bas âge. Donc, il y a une dimension sociale qui était même là avant même qu'eux emménagent. Ils l'ont mis en place en premier, avant même eux de créer leur logement. Ils ont mis en place des associations sur le lieu. Ils ont créé un espace agricole pour que des jeunes maraîchers puissent tester aussi leur activité maraîchère avant de pouvoir aller ailleurs.
Ils ont installé, installé
un fournil où ils font du pain bio pour le village. Ils ont un coworking pour des indépendants qui puissent ramener dans ce village. Donc en fait, on voit qu'il y a un projet qui part au final d'un groupe qui se connaissait bien. Et il va avoir un rayonnement sur un territoire beaucoup plus grand. Et ça, les communes s'y trompent pas en général. Au début, il y a toujours une crainte. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de projets qui se font souvent assez mal accueillir. Parce qu'évidemment, c'est des gens qui sont pas du coin, qui s'installent parfois. Mais à l'échelle d'une dizaine d'années, il y a très souvent, en fait, un lien qui se crée avec une institution locale et qui devient plutôt positif.
Et d'ailleurs, c'est du pain béni, quoi.
Ouais, il y a une étude là qu'on va sortir avec le Campus de la Transition sur ce qu'on appelle le RCI, sur l'indicateur de capacité relationnelle, qui est un indicateur qui permet de mesurer à quel point un projet contribue à la création de liens sociaux. Et donc, on en attend à la fin de l'étude, là, qui sera d'ici quelques semaines, et qui permettra justement de mettre en lumière le bénéfice de ces oasis sur leur territoire.
Trop bien. Après tous les exemples que tu as cités, le mien va sembler un peu ridicule, mais tout à l'heure, ça me faisait penser sur la maison en paille. J'avais eu la chance d'interviewer quelqu'un qui montait sa maison en paille avec France 3, et que, bah, un peu comme toi, tout le monde, forcément, est curieux, il vient de poser des questions, et déjà, ça crée un premier lien social. Même si, effectivement, comme tu l'as dit, ça peut aller beaucoup plus loin avec. Du maraîchage ou plein d'autres choses, et que notamment lui il avait fait ses fondations en bouchon de liège parce que c'est le seul matériau qui peut pas pourrir, et du coup en gros tout le village lui filait ses bouchons de bouteilles c'est de vin ou quoi, et sur votre chaîne YouTube j'ai vu un témoignage d'une habitante d'une oasis qui dit comme on est 10 dans l'oasis, on partage beaucoup de choses, donc j'ai besoin de moins pour vivre. Donc, par exemple, elle est passée à mi-temps, ils sont 3 à partager sa voiture, et inversement, comme tu disais tout à l'heure, des fois, elle garde les enfants de, je sais pas comment on dit, ses cohabitants. Et dans le même style, je sais que l'Oasis Eco-Ravi, il dépense 0 euro pour le chauffage et pour l'eau chaude, parce qu'ils ont vachement bien pensé leur éco-construction. Ma question, c'est est-ce que une fois qu'un écolieu est construit et qu'il tourne, est-ce que toi, tu observes vraiment une réduction des dépenses des familles?
Oui, en fait, sur deux plans, il y a au niveau financier et au niveau écologique. Donc, au niveau écologique, on est en train de faire en ce moment un bilan carbone assez près de pas mal de lieux. Il y a une première étude qu'on avait fait en 2015 qui montrait une division par deux du bilan carbone des habitants, alors qui n'est pas lié que à l'écolieu même, mais aussi à des choix personnels, par exemple de manger moins de viande ou ce genre de choses. Mais dans les faits, l'écolieu, c'est presque un outil au service d'une envie de moins consommer. Parce que Si on veut juste réduire son bilan carbone et qu'on vit comme tout le monde, du coup c'est juste des privations. En gros, c'est juste on fait moins, ce qui est nécessaire. Dans un écolieu, ça passe aussi par autre chose. Par exemple, de dire plutôt que aller acheter des œufs au supermarché, bah, du coup, on va avoir des poules. Finalement, on va moins peser sur la planète en s'occupant de nos propres poules et en, voilà, et en les nourrissant avec nos propres épluchures. Mais voilà, mais de le faire tout seul, c'est compliqué. Et de le faire à plusieurs, c'est beaucoup, beaucoup plus accessible. Après, au niveau financier, ça, il y a des études qui le montrent, que ça permet de réduire. Ça permet de réduire à la construction et dans la vie. Dans la construction, bah, d'ailleurs, on mutualise, par exemple, des compétences au départ. On peut s'entraîner sur une santé participative. Ça s'appelle de l'autopromotion, c'est-à-dire on fait pas appel à un compte immobilier et du coup on porte nous-mêmes notre propre projet immobilier, donc on réduit les coûts à la construction par rapport à un projet classique.
C'est plus de boulot du coup.
Plus de boulot, voilà. Quand on vit sur place, oui, c'est une réduction. Alors après, tout dépend comment le lieu a été conçu, mais en tout cas, on peut être plus autonome, notamment au niveau alimentaire. Au niveau énergétique, là, c'est assez criant pour les lieux qui sont en construction neuve. C'est-à-dire, évidemment, quand on construit aujourd'hui un éco-hameau ou une oasis en construction neuve, en général, c'est que des bâtiments passifs, qui sont bien conçus, qui collectent de l'eau de pluie, des toilettes sèches, etc. Donc, de fait, on consomme moins. Moi, pour donner un exemple dans mon cas particulier, donc on a une maison avec ma femme et nos trois enfants de 140 mètres carrés, donc qui est grande. On consomme 2 stères de bois par an de chauffage. Donc, on consomme à peu près 100 euros de chauffage par an. Voilà. Pour une maison, qui est conçue de manière à dépenser moins. Okay. Après, par exemple, on a une buanderie collective. Donc là, on a acheté la vue en arrivant sur place qu'on a mis à disposition la buanderie collective. Si un jour il faut la changer, c'est pas nous qui allons la payer. C'est le collectif qui la paiera. Et donc, finalement, ça nous coûtera moins cher. Voilà, pareil, plutôt qu'avoir une 3 mètres carrés dans la maison dédiée à avoir un sèche-linge et un lave-linge, bah, on passe à chez nous, donc c'est moins de mètres carrés utilisés pour ça, mais qui sont mutualisés. Donc la mutualisation, elle permet de réduire les consommations. Après, par des effets rebonds, comme tout, c'est-à-dire que si je me dis, bah du coup, super, il faut mutualiser, mais je fais quand même une maison qui est exactement comme tout le monde, avec le même nombre de pièces, etc., bah du coup, on crée des mètres carrés en plus. Donc le but, c'est de mutualiser pour faire aussi, éventuellement, des choses plus simples. Par exemple, ne pas avoir de chambre d'amis dans toutes les maisons, mais on les mutualise. Alors, par exemple, de la buanderie. Dans notre maison, je n'aurai pas de bureau à terme pour travailler. Nos trois enfants auront chacun une chambre, peut-être quand ils seront grands. Mais on a prévu un coworking dans les co-hameaux qui permettra à des personnes de ne pas recréer des bureaux chez eux, mais de mutualiser cette fonction-là. Voilà, et puis, pour prendre d'autres exemples, ça c'est ma femme qui s'en occupe, on récolte pas mal de pommes. Bah, du coup, on va les presser ensemble pour faire du jus de pomme. Du coup, tout le jus de fruits qu'on a bu cet hiver dans ma famille, c'est que du jus de pomme avec des pommes qu'on a pressées nous-mêmes, qu'on a fait collectivement. Donc le collectif permet de faire des choses qu'on ne fait pas forcément tout seul.
Ouais.
Et puis, un truc tout bête, moi, je veux dire, un truc, mais alors vraiment de béaba, si chacun chez soi, on regarde un film le soir, donc, je sais pas, il y a des télés ou des ordi allumés, il n'a pas à avoir, tiens, sur les 15 familles. Bah si plutôt que faire ça, on a une salle où on projette le même film pour les 15 amis, c'est plus sympa, c'est plus convivial. On passe de 15 ordi à un seul utilisé. On consomme moins d'électricité. On a moins de mètres carrés à chauffer quand on regarde le film. Donc en fait, la mutualisation, c'est vraiment un levier énorme. C'est-à-dire qu'on peut y avoir des postes de consommation qu'on peut tout de suite diviser par 3, par 4, par 5 dès qu'on mutualise. Et voilà.
Ah, je suis trop content.
Mais il va le faire. Et ça, c'est vrai que voilà, on a tous des curseurs entre ce qu'on garde pour soi et ce qu'on met entre les mains du collectif. Et il n'y a pas de bonne réponse là-dessus. Ça dépend de notre temps disponible, ça dépend de nos envies, de notre degré de maturité dans le groupe, de notre confiance. Voilà. Et c'est là où c'est un chemin permanent qui bouge en fonction du projet et des personnes qui le composent.
Ah, mais je suis trop content que tu aies pris des exemples aussi précis parce que. Je connais les écolieux, mais en même temps, je connais pas aussi bien que forcément que toi. Et ouais, je trouve des trucs tout bêtes, mais tu vois, nous, on a deux chambres et dans la deuxième chambre, t'as le linge qui sèche, qui prend toute la place et c'est un truc tout bête auquel j'avais pas du tout pensé. Mais de mutualiser ça, c'est quand même vachement plus sympa en plus de faire tes lessives avec quelqu'un d'autre.
Exactement. Ouais, et puis le linge qui sèche dans une maison bioclimatique, c'est un peu bête, quoi. Tu as une maison qui est faite pour être assez étanche et tu refous l'humidité dedans, quoi. Donc c'est des choses un peu toutes simples. Alors après, ça demande ça demande de se mettre d'accord, ça demande de la logistique, mais par contre quand on arrive bien, c'est beaucoup plus efficace.
Je trouve ça hyper intéressant. Et pareil, l'exemple des séries, où, bah voilà, automatiquement, souvent, une bonne partie de notre génération, le soir, elle va se mettre devant une série. Enfin, moi-même, je suis tiraillé entre ça, et en même temps, ça me saoule de, bah, voilà, de pas être dans de la relation. Et en même temps, des fois, t'as juste envie d'une série et de se dire, bah ouais, mais en fait, juste tout de suite se dire, bah, je la regarde avec quelqu'un d'autre, ça a beaucoup plus de sens. Et puis après, tu vas débattre dessus, et puis voilà, tu passes un moment ensemble. Et je trouve ça hyper intéressant, effectivement, de, il y a les choses évidentes où tu te dis, bah, j'ai envie d'avoir mon logement pour moi, et enfin, qu'est-ce que j'ai envie qu'il soit privé, qu'est-ce que j'ai envie qu'il soit collectif. Et il y a des choses, effectivement, qui sont un peu entre les deux et qui peuvent redonner vachement de sens, je trouve. Donc, merci pour ces exemples. D'ailleurs, si vous avez envie de rejoindre ou de lancer un écolieu, je vous conseille le MOOC des Colibris, Concevoir une oasis, qui a donné naissance, je crois, à plus de 400 projets, même s'il y a quelques années.
Ouais, alors, il y a du changement là-dessus, si tu me permets.
Ah, OK.
En fait, on est en train de faire un nouveau MOOC qui va être disponible normalement là au mois de mai-juin.
Ah, génial.
En très peu de temps. Et qui va être beaucoup plus poussé que ce qu'on avait sorti à l'époque. Donc, le MOOC qu'on avait fait en 2015 à Colibri, c'était vraiment un peu nouveau. C'était vraiment pour donner envie aux gens de vivre comme ça. Là, cinq ans après, on n'est plus au même point. C'est-à-dire, on en est maintenant à un point où il y a beaucoup de gens qui, ça y est, sont prêts à y aller. Et donc, c'est tous les demandes d'accompagnement qu'on a. Et pour démocratiser l'accès à ces connaissances, du coup, là, on a un MOOC qui va être plus technique et plus complet et qui sort dans très peu de temps.
Très bien.
Attendez encore 2-3 mois et vous aurez un contenu fait par la coopérative Oasis qui devrait être chouette.
Et est-ce que tu aurais un conseil pour celles et ceux qui nous écoutent et qui envisagent de rejoindre une Oasis?
Alors, déjà, la question, c'est rejoindre ou d'en créer, parce qu'il y a ces deux approches. En tout cas, dans les deux cas, je pense que le premier conseil, c'est d'aller se frotter à la réalité. C'est d'aller voir ces lieux, passer du temps sur place pour ceux qui accueillent, pour aussi voir ce que ça nous fait. Donc, ça peut renforcer la motivation et la clarifier, ou ça peut à l'inverse dire, oulala, non, en fait, c'est trop de réunions pour moi, ou j'en sais rien. En tout cas, ça permettra de passer d'un rêve à quelque chose qui soit un peu plus précis. Donc, il y a d'une part ça, et ça, on peut le faire aussi à plusieurs. C'est-à-dire que si vous avez un groupe, par exemple, vous avez déjà des amis à qui vous voulez monter un lieu, bah, du coup, ça permet aussi de vivre une expérience collective, autre que juste, se voir de temps en temps et faire des réunions. Ça peut être vraiment de commencer à s'entraîner un peu à vivre ensemble. Donc, je pense que c'est une bonne démarche, et ça, on propose des voyages dans les oasis pour ceux que ça intéresse d'aller découvrir ces lieux, des séjours. Il y a une forme qui s'appelle la pépinière oasis, qui va commencer la fin avril, qui dure 6 mois. Alors, pas en continu, avec beaucoup de séjours inclus pour aller découvrir, en fait, de l'intérieur comment ces lieux fonctionnent. Voilà, donc ça, c'est des choses que je conseille. Alors, ça prend un peu de temps et parfois un peu d'argent de faire ça. Mais vu ce que c'est comme projet, c'est quand même un projet de vie, c'est quand même pas rien de créer un lieu, de mettre toutes ses économies dedans. Ça vaut le coup de prendre 6 mois, 1 an pour aller voir des lieux, aller creuser ses motivations, parce que derrière, si on crée le lieu et qu'on s'est trompé, bah, du coup c'est dur à rattraper. Quoi.
Justement, pour ceux qui ont envie de se lancer, il y a une question assez récurrente de... Moi, j'ai des copains qui ont envie de créer leur écolieu. Et justement, est-ce que d'abord tu trouves les gens ou d'abord tu trouves le lieu?
Ah bah, c'est l'un ou l'autre. Idéalement, faut arriver à trouver les deux. Mais après, au niveau de l'ordre, le plus dur, je pense, c'est de trouver les gens, en fait. C'est-à-dire que s'il y a un collectif qui est bien constitué, on va réussir à trouver un lieu. C'est pas forcément parfait par rapport à ce qu'on imaginait, mais il y a quand même plein de lieux disponibles. Surtout si au niveau géographique on est assez ouvert. Après, il y a aussi des collègues qui partent d'un lieu, des gens qui ont un lieu et qui intègrent des gens. Après, dans la mesure où le principal facteur qui fait qu'un projet va réussir ou échouer, c'est quand même le facteur humain, c'est là où la dimension collective est quand même prioritaire, j'ai envie de dire. Donc, trouver un collectif, c'est quand même une priorité d'après moi. Mais après, tout est ouvert, hein. Il y a des exemples, il y a des conséquences de ce que je viens de dire. Mais nous, on voit aussi beaucoup de personnes qui pensent un projet tout seul, parfois même vont trouver un lieu tout seul, qui s'étonnent après que personne les rejoigne. Mais si le chemin a été fait trop tout seul, bah, du coup, les personnes, quelle est vraiment leur place quand ils arrivent? Donc, c'est il y a des exemples où ça a marché comme ça, et c'est très bien. Mais c'est vrai que ça peut être des fois des gens qui galèrent un peu plus à créer leur lieu en intégrant d'autres personnes, parce qu'ils ont tellement pensé le projet avant que les gens qui arrivent ont très peu de marge de manœuvre.
Ouais. Ah, c'est marrant, parce que moi j'aurais pensé que c'était le contraire justement, et que comme l'humain, c'est le plus important, je trouve ça plus facile d'avoir tout de suite un lieu comme ça, c'est tout de suite concret et pas en train de faire des réunions mentales jusqu'au bout de la nuit. Et du coup, ce lieu, parce qu'il incarne, il va attirer plus facilement les bonnes personnes qu'il faudra filtrer. Mais effectivement,
mais en fait,
après, c'est peut-être plus dur de...
Le moment où on achète un lieu, il y a quand même beaucoup de choix qui ont été faits avant. En plus, on parle du rapport à la propriété, est-ce que c'est finalement était en bien commun, en bien collectif, avec des espaces privés, etc. Donc en fait, il y a quand même des... Quand on achète un lieu, il y a quand même des décisions qui sont à prendre avant, qui sont très structurantes.
Est-ce que tu penses que c'est souhaitable que demain, la plupart des gens vivent dans une oasis? Ou est-ce que le but, c'est que ça reste un laboratoire à ciel ouvert, mais plutôt qu'il y ait un moyen pour aider la société à se réinventer sans forcément que ça devienne la norme?
Moi, je dirais que c'est un peu entre les deux pour moi. C'est-à-dire que je ne crois pas que c'est un mode de vie qui est fait pour tout le monde aujourd'hui. Je ne vais pas envisager un pays qui serait couvert de 30 000 oasis interconnectées, parce que je pense que c'est une vision trop réductrice, en fait, de l'être humain et de ses besoins. Ceci dit, je pense qu'il en faut beaucoup plus que ce qu'il y a aujourd'hui, parce que c'est des dimensions de laboratoire à ciel ouvert que tu mentionnes. Elle est vraiment précieuse. Elle est même essentielle. Je crois que moi, dans ma vision aujourd'hui, je pense que c'est la dimension la plus importante de la transition écologique, ces lieux-là aujourd'hui. C'est ces lieux les plus nécessaires. C'est-à-dire que sans ces lieux-là, il n'y aura pas de transition écologique. C'est un peu ma conviction. Okay. Donc, il faudrait, voilà, il y a 30 000 communes en France. Ce serait bien qu'il y ait une oasis par commune. Mais tout le monde n'habitera pas comme ça. Donc, je pense qu'il faut en développer beaucoup plus et qu'il y a vraiment de la marge. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de vivre comme ça et donc il faut qu'ils se lancent. Donc, si vous avez envie de vivre comme ça, allez-y, lancez-vous. Il y a tout disponible pour que ça marche. Il y a tellement de gens qui ont réussi avant vous que du coup c'est le moment d'y aller. Et à l'inverse, il y a des gens pour qui ça peut être très bien de vivre dans un collectif. C'est pas fait pour tout le monde en l'état aujourd'hui. J'ai quand même l'intuition que le mode de vie de l'avenir, étant donné les perspectives même un peu plus pessimistes, d'effondrement, etc., nous amènera à devoir recréer du lien social beaucoup plus fort à l'échelle locale que ce qu'il est aujourd'hui, de moins compter sur des institutions pour prendre en main la solidarité, mais aussi l'organiser à l'échelle locale. On l'a bien vu au moment du confinement, que les institutions ont quand même une limite dans leur capacité à traiter un monde qui serait moins abondant en argent, en plein de choses, donc en énergie aussi. Donc il faut arriver à se préparer, à être plus solidaire à l'échelle locale. Et ça passe pas forcément par vivre ensemble. Ça peut être aussi des quartiers de gens qui vivent chez eux comme aujourd'hui, mais qui recréent quand même la solidarité. Et donc ça, c'est il faut un peu de tout pour faire un monde. Et du coup, vraiment de nous inviter à questionner vraiment le système et ce qu'on a proposé depuis qu'on est né comme mode de vie, pour trouver ce qui nous correspond mieux, à la fois pour incarner nos valeurs, mais aussi pour être plus heureux.
J'avais envie de poser une question très pratico-pratique où j'ai l'impression que souvent, en gros, je me rends pas compte à quel point c'est dur d'intégrer un écolieu ou pas, parce que je trouve que les meilleurs écolieux, souvent, c'est ceux qui ont les processus pour entrer les plus longs. Des fois, ça peut durer 6 mois parce que, ils veulent vraiment prendre.
Même plus parfois, et parfois un an et demi, 2 ans,
ils veulent être sûrs que ça match et que toi t'es la bonne personne pour eux et inversement, et que du coup souvent ça nécessite de s'impliquer bénévolement énormément en amont dans cet écolieu sans aucune garantie. Est-ce que c'est un peu la norme, ou est-ce que c'est quand même plausible, entre guillemets, de trouver des écolieux sains et matures qui tiennent la route sans forcément avoir besoin d'autant de temps et d'investissement personnel en amont sans garantie?
En fait, il y a plusieurs critères. Il y a un critère de taille du lieu. Plus un lieu va être grand, plus il pourra intégrer facilement. C'est paradoxal, mais c'est parce que finalement, une nouvelle personne qui va arriver va peut-être moins perturber le collectif en place. Quand on parle des grands éco-villages au niveau mondial, vous allez à Auroville en Inde ou Findorn en Écosse. Je veux dire, ils sont tellement nombreux que si vous arrivez et vous faites un peu le bazar, c'est pas grave. Ça va pas mettre en danger le projet. Donc plus un lieu est grand, plus c'est finalement facile de le rejoindre. Car en tout cas, moins on risque de perturber. Et après, je dirais, plus un lieu va loin dans la dimension collective, plus il faut un temps d'intégration qui soit long. Tu vois, par exemple, dans les Quamo du Plessis, comme c'est un lotissement, entre guillemets, c'est des maisons individuelles et puis des espaces communs, coup, il y a moins un enjeu intégrer quelqu'un que si on vivait vraiment dans un format beaucoup plus communautaire. Là, une nouvelle personne qui arrive a besoin vraiment de s'imprégner beaucoup plus du mode de vie des autres, et de pouvoir, je pense à à l'Arche de Saint-Antoine, qui est un très beau lieu que j'aime beaucoup en Isère, et un lieu communautaire essentiellement chrétien, où là, il y a un processus d'intégration qui est extrêmement long pour vraiment être ce qu'on appelle un engagé, quelqu'un qui vraiment fait partie du centre de la communauté en plusieurs années. Mais c'est nécessaire vu leur mode de vie, où carrément, ils mutualisent même tous leurs revenus. Ils ont même un compte en banque commun où ils mettent leurs revenus ensemble et ils gèrent ça ensemble. Donc, ça demande un tel niveau de confiance que ça ne se crée pas en 3 semaines. Ça demande de se connaître et de comprendre la culture du ouais. lieu, quoi. Donc, ça prend du temps. Et en même temps, dans un monde aujourd'hui où la notion de l'engagement, elle est quand même assez amochée, hein. On a du mal à s'engager sur plein d'aspects de nos vies. Bah là, du coup, cette dimension collective, elle invite à clarifier un choix par rapport à l'engagement. Soit on dit c'est des lieux où il y a peu d'engagement et on peut rejoindre facilement. Donc, on rentre facilement, on sort facilement. Et ça, c'est un modèle qui est pertinent pour beaucoup de gens. Soit on se dit, bah, on est dans un lieu où, à l'inverse, on va demander un engagement fort aux personnes. Donc, bah, voilà, il y a tout ce processus d'intégration qui doit prendre du temps. Et même pareil, quand on quitte un lieu, ça va peut-être prendre du temps. C'est une grande question, la question d'engagement, hein, je pense, dans ces lieux, de se dire à quel point on va se sentir engagé, malgré les difficultés, malgré les désaccords, à essayer de les traverser pour grandir. Ou est-ce que dès qu'un truc ne me convient pas, bah, je me barrerai. Bah, voilà. Donc ça, c'est quand même des choix assez structurants de départ.
Ouais, parce que je me dis, moi, c'est hyper intéressant ce critère de sélection, parce que bah, si tu as envie de rejoindre un écolieu, je sais pas, je trouve ça pas du tout optimal de se dire, OK, bah, je vais tout miser sur cet écolieu et puis je vais faire du bénévolat là-bas toutes les semaines. Et puis s'ils ne me prennent pas, bah, tant pis, je recommence à zéro, quoi.
Oui, alors après, le bénévolat, forcément, du bénévolat, hein, y a des gens qui peuvent vivre dans les lieux mais qui ne sont pas engagés de la même manière que les autres. Ça peut être, par exemple, de dire, dans un lieu, il y a des appartements qui sont en location, donc je loue comme si j'habitais ailleurs, mais je ne suis pas encore associé dans la société qui gère le lieu. C'est-à-dire, oui. quelque part, j'ai quand même une place un peu différente dans la prise de décision.
Oui.
Et c'est seulement okay. au bout d'un an ou un an et demi où j'ai peut-être pu être observateur que je vais pouvoir vraiment devenir associé pour dire avec les autres. En fait, faut pas être naïf sur les enjeux humains. Et ça, c'était, je pense, la force des projets maintenant par rapport au comité des années 80-70. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens étaient beaucoup plus ouverts à l'intégration rapide de nouvelles personnes. Il y a beaucoup d'enjeux humains qui n'étaient pas vus. Et on a vu des communautés dans les années 70 exploser super rapidement parce que justement, on n'avait pas pris en compte la complexité de ces rapports humains. De la même manière, par exemple, des projets aujourd'hui définissent des enjeux de mixité sociale, de mixité générationnelle, qui n'étaient pas le cas il y a 40 ou 50 ans. Là, par exemple, tu fais un collectif où il y a beaucoup de jeunes, ils vont peut-être se dire, ah ben, c'est intéressant d'intégrer des personnes âgées. Pour avoir une pyramide des âges équilibrée, d'avoir des approches de la vie différentes en fonction de nos âges. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est beaucoup plus conçu et beaucoup plus designé. Il y a quelque chose où ce mode de vie, c'est pas juste allez hop, on trouve un lieu, on va vivre tous ensemble dedans et ça va bien se passer. Parce que ça, en général, ça se passe souvent mal, quoi. Mais voilà, c'est vraiment comprendre que c'est un truc magnifique, le facteur humain, qui nous permet de grandir, mais que voilà, si on le néglige, ça peut devenir quelque chose d'extrêmement douloureux.
Oui, c'est souvent la première cause d'échec d'un projet.
Bah, c'est même la seule. Hein. Très honnêtement, c'est la seule. Je veux dire, par des enjeux financiers. Si un projet a réussi à se construire, c'est-à-dire qu'il a eu le financement, à un moment donné, le seul truc qui fait qu'un projet figure, c'est l'humain.
Ça sort même pas de terre, quoi. Okay.
Oui.
J'avoue que moi, que le côté collectif, il me fait rêver et en même temps, il me fait flipper. Je me demandais, toi, dans ton écolieu, ça a été quoi, peut-être le plus dur et de l'autre côté, le plus incroyable dans l'écolieu que vous avez monté?
Alors, moi, en l'occurrence, je m'occupe de deux écolieux qui sont juste à côté. Donc, les parts différentes sont les deux lieux. Parce que, donc, l'Écoamo du Plessis, c'est un Écoamo qui est tout jeune, qui est encore en construction. De toute façon, il y a qu'une douzaine de maisons qui sont comptées sur les 28 qu'il y aura au total. Donc, c'est un Écoamo qui se construit aussi au niveau humain et qui se trouve à côté du centre Ama de la ferme du Plessis, qui est plutôt un centre spirituel, qui est aussi une vie communautaire, donc aussi une oasis dans la définition très large qu'on en donne. Et où là, par contre, je suis engagé depuis plus de 15 ans. Donc, ta question, c'était quoi? C'était de savoir ce qui était le plus difficile dans ce que j'ai traversé par rapport à ces lieux?
Ouais, des anecdotes ou les moments les plus forts, soit des mauvaises surprises ou au contraire des belles surprises.
Moi, je suis passionné par ça. Je suis passionné par ce mode de vie-là. Donc, en fait, je dirais que j'ai des bonnes surprises tous les jours. Dans comment ça aide les gens à cheminer personnellement? De voir des gens grandir, des gens changer, dépasser des limitations qu'ils avaient. Ça c'est énorme et ça je pense que la vie collective pour des gens qui ont une démarche de travail sur eux-mêmes c'est un support merveilleux. Donc j'ai vu des personnes arriver en grande difficulté psychique ou émotionnelle ou ou même relationnelle, et d'en sortir avec avec des pépites intérieures, quoi, avec quelque chose qui est vraiment très beau. Donc ça c'est souvent des choses qui nourrissent de voir à quel point ces lieux répondent à des besoins de personnes, leur permettent de grandir. Ouais. Après, j'ai vécu une expérience très forte dans l'éco-hameau. Ce que je trouve intéressant, et c'est quelque chose qui est propre pas à notre éco-hameau mais à tous les lieux, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les polarités. Et ça, c'est des grands apprentissages pour moi. C'est qu'on dans tout lieu, même si on a un lieu où on a quand même beaucoup de proximité, de valeur, on va incarner des polarités différentes dans un groupe. Et du coup, les moments souvent de difficulté, c'est les moments où ces polarités ne sont pas vues comme des choses complémentaires, mais comme des choses qui s'opposent. Que finalement, les relations se dégradent parce qu'il y a des gens qui sont plus dans un sens ou plus dans l'autre. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est le principal défi que je ressens dans les lieux aujourd'hui, c'est d'arriver à comprendre la complexité de l'humain. Et finalement, c'est en sciences humaines, les oasis, c'est un laboratoire merveilleux, quoi, pour creuser des leviers psychologiques, des leviers même en termes démocratiques, de comment est-ce qu'on arrive à construire une autre société. C'est, je pense, le plus beau laboratoire qui existe aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qui me nourrit aussi, c'est ce côté recherche et développement, quoi. C'est-à-dire, on est recherche appliquée. C'est-à-dire, à la fois, on fait de la recherche, en même temps, on l'applique tout de suite. Et voilà. Donc, je pense que c'est ça, mes plus belles surprises, c'est des apprentissages sur moi-même et sur les autres qui se font par ce quotidien. Un dernier point aussi qui me vient, qui est quand même une source de joie pour moi et de satisfaction, c'est par rapport aux enfants.
Ouais, j'allais te demander.
C'est-à-dire que, autant la phase de construction d'un lieu, pour beaucoup de familles, ça peut être assez lourd, parce qu'en gros, c'est un gros projet qui prend du temps. Donc, on a des enfants en bas âge, plus un travail, ça peut être compliqué, notamment quand on construit sa maison. Ben, d'avoir des enfants, c'est plus embêtant, ça prend du temps aussi. Mais quand on habite sur place, c'est chouette de sentir, que, à la fois, on peut avoir un espace familial qui est assez protégé, où on peut expérimenter des relations familiales qui soient satisfaisantes, mais on est aussi entouré de personnes qui peuvent être des personnes de référence pour nos enfants, alors que ce soit des adultes qui peuvent transmettre d'autres compétences. Dans notre éco-hameau, les gens, je sais pas, qui peuvent être menuisiers ou avoir des compétences très poussées en jardinage, et ben du coup nos enfants peuvent apprendre auprès de ces personnes. Et après, entre enfants, c'est-à-dire que il y a la fratrie, mais il y a aussi d'autres enfants avec qui ils sont amenés à créer des relations très fortes, au-delà même des relations qu'on peut avoir en milieu scolaire. Et du coup, ça donne un sentiment de liberté aux enfants. Ils peuvent aller chez les uns, chez les autres. Ils ont un grand terrain pour jouer. C'est une vie, je pense, beaucoup plus riche pour un enfant que juste une petite maison avec un petit jardin de 100 mètres carrés. Quoi. C'est un peu autre chose. Et donc, avec ma femme, on est quand même assez, on est très occupés. On s'implique pour nos enfants, mais on a tous les deux un travail. On a beaucoup d'engagement associatif. Et du coup, ce mode de vie nous permet d'avoir des enfants qui sont super heureux et qui grandissent très sereinement. Et nous, de nous sentir un peu soulagés, si à un moment donné, on a besoin de partir faire quelque chose, ben, il y a des voisins qui peuvent s'occuper de nos enfants pendant une heure, tant qu'on n'est pas là. Il y a une forme d'entraide aussi dans l'éducation. Et ça, je pense que c'est...
Ouais, va bosser, c'est bon, je vais m'amuser avec les copains.
T'inquiète. Ouais, ben, même des fois, ça me fait même, le soir à 19h, mais ils sont où les enfants? On appelle les voisins pour voir où ils sont, chez qui ils sont en train de jouer, quoi.
Donc, ça peut être aussi hyper stressant, au contraire.
Ils vivent leur vie. Mais en fait, c'est de la mesure
où... Le jour où ils font une fugue, tu te dis, bon, c'est bon, ils sont chez un voisin.
Non, mais bon, ils sont encore petits, donc ils font pas de fugue, mais en gros, on crée de la confiance. En fait, le moteur d'un écolieu, c'est la confiance entre les personnes. Ouais. Et une fois que cette confiance, elle est créée, bah, du coup, la vie est plus simple.
Et enfin, je voulais te demander, comme chaque oasis a forcément son ADN par ses choix, mais aussi bah, juste par les personnes qui la composent, qui donnent une couleur différente. Et en même temps, il y a des promoteurs immobiliers qui maintenant veulent déployer ces formes d'habitat partagé. Et souvent, ça peut être fait de manière, bon, évidemment capitaliste, mais parfois maladroite. Est-ce que pour toi, ça peut être une bonne chose qui démocratise ces oasis, ces écolieux collectifs, ou est-ce que c'est condamné à être des répliques sans âme de vraies oasis?
Ouais, bah c'est un grand sujet de débat, j'ai envie de dire. Moi, je suis plutôt à penser que la richesse de ces lieux, c'est leur unicité. Moi, je réfléchis beaucoup sur ce qu'on appelle la pensée archipélique, la pensée continentale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on sort de cette logique de l'industrialisation, de la reproduction du même, pour aller vers quelque chose de l'archipel, ce qui est l'ordre de c'est la différence et l'unicité qui fait justement la richesse. Donc moi, je suis plutôt un partisan de faire grandir l'être humain pour que l'être humain crée plein de lieux différents et qui sont pas duplicables en l'état, plutôt que de vouloir industrialiser les oasis en les dupliquant. Après, dans les faits, ce sera sans doute un entre-deux, c'est-à-dire que, comme tu le disais, on peut pas dupliquer un lieu, sinon il va pas avoir d'âme, et ça va finalement échouer. On a beaucoup, vu beaucoup de lieux initiés par des collectivités locales, par des mairies, par exemple, qui mettent à disposition un terrain d'un collectif qu'ils allaient chercher un peu à gauche, à droite. C'est des lieux qui ressemblent finalement à des lotissements classiques ou à des immeubles classiques, au final. Donc, si on veut vraiment qu'il y ait une âme particulière, qu'il y ait cette raison d'être qui va colorer en fait, toutes les actions du projet, il faut que les personnes aient eu le temps de cheminer et de bien se connaître et de se choisir aussi, en fait. Donc je crois assez peu à une duplication sur l'aspect humain. Par contre, ouais. Effectivement, l'idée, et ça c'est notre travail, c'est de simplifier l'accès au niveau technique, c'est-à-dire de rendre disponible, de documenter tout ce qui est fait, que des personnes ne fassent pas les mêmes erreurs que ceux qui se sont lancés il y a 5 ou 10 ans, apprennent de ces expériences, et finalement que ce soit de plus en plus facile, de plus en plus rapide de créer un lieu. Mais il y aura quand même toujours, je pense, comme un investissement, un engagement personnel qui sera très différent de juste « je vais à l'agence immobilière, j'achète une maison ». Si c'est juste ça qu'on veut, faut pas créer une oasis. C'est le chemin est aussi important que le résultat. On voit beaucoup le résultat d'un lieu abouti, autonome, solidaire, etc. Mais le chemin humain pour y arriver est encore plus important, j'ai envie de dire. C'est là où, si la motivation, c'est juste, encore une fois, le lieu lui-même et c'est pas la dimension collective du projet, la rencontre de l'autre, du coup, ça ne marchera pas. Donc, après, nous, on rencontre beaucoup, de promoteurs, y compris même là, récemment, il y avait une des filiales de Bouygues qui est venue nous proposer des partenariats. On leur a doucement dit que même si c'est très sympa dans l'échange, on dit qu'on croit pas du tout à ce que Bouygues s'en empare. On n'y croit pas. Et on leur dit, essayez, vous allez voir. Vous allez vous planter. Parce que, ils vont peut-être créer des très beaux bâtiments, mais est-ce qu'ils vont créer une belle communauté? C'est pas sûr du tout.
C'est pas leur métier, quoi.
Oui. Et puis, je pense que ça repose cette logique, tout à l'heure, d'être juste des consommateurs. Et aujourd'hui, il faut se remettre à produire, à faire par nous-mêmes. Que ce soit pour nos légumes, dans nos jardins, mais aussi pour nos lieux de vie. Et donc, c'est une invitation, sans forcément à faire des projets mirobolants, très compliqués, mais des fois juste, on est trois familles, on achète une grande maison et on vit dedans. Ça peut être assez simple, finalement, de vivre en collectif, si on fait pas des projets de grande ampleur. Mais par contre, je crois pas, car en tout cas, je crois que partiellement, disons, à la prise en main par les promoteurs immobiliers de ce concept.
Ouais. Moi, ce qui me plaît énormément dans ce mouvement, parce que justement, pour moi, c'est important de montrer que c'est pas juste des initiatives de petits groupes d'individus, et voilà, il y a vraiment une tendance de fond et qui souvent s'ancre sur le territoire. C'est que c'est des gens qui, on a eu ras-le-bol de la société actuelle et où ça peut être, enfin, tout est fait pour qu'on reste dans une posture assez passive de consommateur, à une posture où, vraiment, ok, je vais créer mon mode de vie. Et avec les responsabilités qui vont avec, parce que c'est loin d'être facile, comme tu le dis. Mais en attendant, je trouve que ça change complètement ton rapport au monde, parce que voilà, t'es vraiment responsable de tout, quoi, potentiellement de ta nourriture, de ok, avec quelle énergie je veux me chauffer, avec qui j'ai envie de vivre, comment est-ce qu'on fait notre propre politique et on prend des décisions. Je trouve ça hyper inspirant et à la fois vertigineux, quoi.
Oui, je pense que dans le changement de paradigme nécessaire, il y a un vrai changement de passer d'un statut de consommateur à un statut de producteur. Et ça pour tout, c'est-à-dire de se remettre en situation de reprendre du pouvoir sur nos vies. Parce qu'on parle beaucoup avec le terme d'empowerment, de reprendre du pouvoir sur notre capacité d'agir, sur que ce soit sur des questions de nourriture, d'habitat, de démocratie locale, d'économie. C'est comment est-ce qu'on arrête d'être spectateur et qu'on devient acteur? Comment est-ce qu'on se met en mouvement? Et je pense que c'est la clé pour créer un autre monde. C'est de ne pas attendre que les institutions changent, même s'il faut qu'elles changent. Enfin, je suis le premier à le penser. Il y a des changements systémiques qui sont nécessaires. Mais en même temps, pour que ces institutions changent, il faut que nous, on ait commencé à changer. Et qu'on expérimente à petite échelle plein de choses. La société civile, de ce côté-là, en ce moment, depuis une bonne décennie, elle est ultra créative. C'est un laboratoire merveilleux d'initiatives. Si vous regardez toutes les initiatives aujourd'hui qui sont un peu mises en avant, elles ne viennent pas des institutions, elles viennent toujours des citoyens. Les monnaies locales, les AMAP, les formes en permaculture, etc. C'est des personnes qui ont créé des choses et après, aujourd'hui, qui commencent à se démocratiser avec le temps.
Merci beaucoup Mathieu, vraiment je me suis régalé. Donc je vous conseille de lire Servir le monde, le livre de Mathieu qui sort le 10 mars en librairie. Et si tu as envie de continuer à fantasmer sur vie à la nature, bah, je te conseille l'épisode avec Perrine de la ferme du Bec-et-Loin sur voilà, peux-tu vivre de ta micro-ferme en permaculture. Merci beaucoup Mathieu, ciao tout le monde.
Merci, à bientôt.